Edouard Naem, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, d'avoir accepté cette invitation de témoigner. Et si vous êtes à l'antenne aujourd'hui, c'est parce qu'il s'est passé quelque chose avec Medjugorje et vous allez nous raconter ça pour notre plus grande joie.
Oui, tout à fait, Sandrine. Merci beaucoup. Merci pour votre invitation. Et merci de me permettre de donner ce témoignage, de pouvoir partager à tous ce que le Seigneur a fait pour moi il y a 10 ans maintenant, et ce qu'il continue à faire encore chaque jour. Eh bien, je pense qu'on peut commencer, chers auditeurs de Radio Maria, par prier ensemble, je vous salue Marie, pour que nos cœurs s'ouvrent, et que le Seigneur puisse aussi, par son Esprit Saint, me permettre de donner des paroles claires, et voilà, qu'il soit bien entendu. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
Amen. Tout d'abord, loué soit Jésus et Marie, que la paix du Seigneur aille directement dans vos cœurs, qu'il ouvre vos cœurs. Pour que vous puissiez recevoir tout ce qu'il veut vous donner aujourd'hui, parce que voilà, je vais vous partager mon témoignage, mais je pense que c'est aussi un moyen de partager l'amour de Dieu, que d'écouter ce témoignage, que de le partager, qu'on a tous cette mission de raconter les bienfaits du Seigneur dans nos vies. Donc, je vais commencer par ma naissance, il y a très longtemps. À Paris, donc je suis né à Paris, en région parisienne. J'ai grandi à Noisy-le-Grand, donc en Seine-Saint-Denis, et j'ai été élevé dans la foi catholique par ma maman, mon papa étant musulman. Je suis resté très souvent à la maison avec mes frères et sœurs. On est 9 enfants, donc une belle grande famille, et on a tous été baptisés quand on était petits, et on a tous fait notre première communion, notre profession de foi, confirmation. Donc notre maman nous éduquait à la foi catholique à la maison. Elle est polonaise et dans son éducation, c'est comme ça qu'on éduquait les enfants. Alors elle a poursuivi cette manière de vivre en nous apprenant qui était Dieu et qui était l'Esprit Saint, qui était la Vierge Marie à la maison. Et aujourd'hui, je peux dire que c'était une enfance magnifique et qu'elle a vraiment beaucoup travaillé pour que nous connaissions Dieu dans nos vies. À l'adolescence, j'ai commencé à accorder un peu moins d'importance à la religion. Et vous savez, on allait à la messe tous les dimanches en famille. Mais quand on grandit, on commence à être un peu plus libre. Et j'ai préféré aller à la messe le samedi parce que je savais que le dimanche, j'allais être fatigué parce que le samedi soir, je faisais la fête toute la nuit. Alors, j'accordais un peu moins d'importance à la religion et je m'éloignais aussi petit à petit de ma famille. Je préférais passer du temps avec mes amis. On traînait dans la rue. On était très nombreux et on aimait se rejoindre, se réunir et passer des soirées et des nuits dans la rue. Petit à petit, on a commencé à découvrir un peu ce que le monde peut nous proposer. On a commencé à toucher à la cigarette, à l'alcool, à la drogue. Et on faisait aussi beaucoup de rap, beaucoup de musique. On vendait des albums, on allait faire des concerts et on découvrait la gloire du monde. Mais derrière tout ça, on se sentait aussi comme des exclus. On était fiers de faire des choses par nous-mêmes parce que autour de nous, on avait l'impression de ne pas être compris et on était un peu dans une attitude d'exclusion. On aimait critiquer, on aimait juger les autres et d'un autre côté, on ne trouvait pas notre place, donc on la créait par nous-mêmes et on trouvait ça normal et on trouvait ça plus juste. Et voilà, on allait de plus en plus dans l'alcool, dans la drogue, et on pouvait plus passer de soirée sans tout ça. Et ce qui fait que Dieu dans cette vie-là n'existait plus. Et ma famille, petit à petit, existait de moins en moins. Et pendant 10 ans, je cherchais à profiter comme ça de ce que le monde peut nous proposer. Donc c'était 10 longues années et un jour, 10 années plus tard, ma cousine m'a contacté et m'a proposé de partir en pèlerinage avec elle à Medjugorje. Alors je vous explique le contexte, c'est que J'étais peut-être la dernière personne dans la famille à qui il fallait le proposer parce que je j'accordais plus aucune importance à la religion. Au fond de moi, je savais que Dieu existait parce qu'on m'avait appris que Dieu existait, mais je n'allais pas aller de moi-même en pèlerinage ou même aller prier parce que pour moi, c'était que Dieu était comme un ensemble de valeurs auxquelles on peut croire pour pouvoir vivre bien ensemble. Voilà, c'était un peu ça, c'était tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu feras des belles choses et tout le monde sera heureux. Voilà, c'était un ensemble de valeurs, mais je n'avais jamais entendu parler d'un Dieu qui était vivant, qui était en moi, qui agissait, qui était près de moi, qui était aussi réel que la table qui est devant moi. Et ça, je n'avais jamais entendu parler de ça. Donc, ma cousine qui me contacte, moi, forcément, je lui dis non, je n'ai pas envie d'aller en pèlerinage avec elle. Bon, ben, avec un ton assez sévère, on raccroche. Et puis, elle, poussée par l'Esprit Saint, elle me rappelle une deuxième fois et me dit, Édouard, il y a quelque chose que j'ai vu sur le site internet de Medjugorje. Eh ben, y a un festival de jeunes qui est organisé, il y a plus de 50 000 jeunes qui vont venir, tu es sûr que tu ne veux pas venir? Et en fait, entre les deux appels de ma cousine, moi, au travail, j'avais des vacances qui m'avaient été imposées, et je voulais partir en vacances, mais mes amis avec qui d'habitude je partais en vacances avaient peu à peu, un par un, s'étaient désistés et ne voulaient plus partir, si bien que ma semaine de vacances allait être vide et j'allais rester à Noisy-le-Grand à rien faire. Et c'est à ce moment-là que ma cousine m'appelle une deuxième fois, elle me propose ça, elle me dit « mais il y a 50 000 jeunes là-bas ». Et elle me dit aussi que c'est en Bosnie, donc moi dans ma tête Bosnie c'est Croatie, c'est mer Adriatique, c'est trop joli, on peut s'amuser. Et Bosnie c'est aussi la bière pas chère, c'est vraiment je me dis ça va être génial quoi, s'il y a 50 000 jeunes dans le tas, il y en a peut-être 10% avec qui je pourrais m'amuser, qui veulent pas prier et qui vont aller faire la fête parce que j'avais fait les JMJ de Rome et je savais très bien comment ça se passait quand on a un groupe de jeunes qui est réuni, il y en a toujours quelques-uns qui vont aller s'amuser et moi ça me plaisait bien, je me suis dit bon, quitte à ne rien faire, autant ne rien faire en Bosnie et s'amuser avec 50 000 jeunes. Et c'est comme ça que j'ai décidé de partir pour ces vacances, d'accepter ces vacances et de dire oui à ma cousine. Donc en prenant l'avion, j'ai rejoint ma cousine à l'aéroport et là on a rejoint un groupe de personnes et déjà à l'aéroport j'ai commencé à ne pas reconnaître ma cousine. Elle allait voir toutes les personnes du groupe en leur disant « waouh, il est joli ton chapelet, il est joli ». Et je n'avais jamais vu ma cousine comme ça. Et pour moi les chapelets ça n'avait rien d'autre, ça n'avait aucune valeur que des petites perles, et moi qui ne suis pas trop fan de perles ou de mode ou de tout ça. Donc je me dis mais d'accord, c'est bien beau un chapelet, si c'est vraiment quelque chose dont ils ont besoin, bah autant prendre quelque chose de pratique plutôt que de joli. Donc je comprenais pas trop. On arrive en Croatie, on prend le bus pour la Bosnie et je vois que toutes les personnes dans le groupe suivent le guide qui propose de prier un chapelet. Tout le monde est ravi, tout le monde est très content et moi j'étais là, j'étais là à ma place. Voilà, j'ai mis mon casque et j'écoutais mon rap. Mais c'était super sympa parce qu'en fait je voyais de très beaux paysages et je me dis bon bah vivement qu'on arrive. 2 heures après, on arrive à Medjugorje et j'ai tout de suite senti l'ambiance pèlerinage. Il y avait des magasins vraiment partout, on se croyait dans un grand souk géant avec plein de tableaux de Marie, des chapelets, et je voyais toutes ces personnes qui rentraient dans les magasins et qui achetaient en masse et qui étaient tellement heureuses de voir d'être ici même que moi je me disais que toutes ces personnes-là sont quand même complètement perdues dans une genre de folie dans laquelle je ne suis pas, mais bon je me suis dit je cherche ces 10% avec qui je pourrais m'amuser. Mais par contre, je voyais quand même, sur ces milliers de personnes qui étaient là, des milliers de jeunes aussi, des jeunes et des moins jeunes, toutes ces personnes avaient l'air d'être dans une très grande joie, une très grande paix, très profonde. Et moi, personnellement, je me sentais aussi très en paix, mais je n'étais pas dans mon élément. Ce n'était pas cette paix-là que j'avais en moi. Et je me disais, bah oui, vous êtes dans une paix, mais moi j'ai une autre paix le soir quand on va aller s'amuser, vous verrez, moi je suis très en paix aussi et je suis très joyeux aussi, vous verrez. Et je me suis dit aussi en arrivant à Medjugorje, parce que je savais que c'était un pèlerinage catholique, chrétien, je me disais, il faut que je me protège de toute tentation de conversion de leur part, je vais prendre mes distances, je vais créer des murs autour de moi. Et je me disais qu'à chaque fois qu'on allait venir me parler, il fallait que je sois vigilant, qu'il n'y ait pas de tentative de conversion. D'une part parce que je suis venu pour m'amuser, et d'autre part, j'étais au courant que ce sont des chrétiens, ils vont vouloir m'embrigader dans leur truc, et puis ils vont vouloir que j'aille prier avec eux et que je change de mode de vie. Et moi, j'étais très bien dans mon mode de vie. Enfin, je pensais être très bien dans mon mode de vie. Donc, je me suis mis des murs. Je me suis dit, plus personne ne pourra me parler directement de foi ou de religion. Par contre, je reste agréable, souriant. Et en construisant ces murs autour de moi, je m'attendais pas à ce que le Seigneur agisse de l'intérieur. Et il est là le grand miracle de Dieu, c'est que Dieu n'est pas à l'extérieur. Dieu est à l'extérieur et à l'intérieur de nous. Et j'avais beau construire des murs tout autour de moi et empêcher tout le monde de venir me parler, Dieu allait me parler dans mon cœur, et ça, je l'avais pas envisagé. Et à cette époque-là, moi, je voyais l'Église un peu comme dépassée. Donc, je vous ai dit, comme des valeurs. Je savais que c'était quelque chose d'ancien et qui prônait la paix, l'amour. Et j'avais mes certitudes. J'étais certain de ce que je pensais sur l'Église, sur les secrets du Vatican, la Bible, tous les complots qu'on peut lire à droite, à gauche, dans la télévision, sur Internet. On peut découvrir des choses qui sont absolument grotesques sur l'Église. Mais c'était mes certitudes. C'est que si l'Église ne répondait pas à ça, je vois pas pourquoi je me poserais des questions sur l'Église, parce que j'avais déjà des réponses. Donc j'entendais là-bas à Medjugorje toutes ces histoires de la Vierge Marie. Aussi, il faut savoir que je n'étais jamais allé à Medjugorje, je n'avais jamais entendu parler de Medjugorje. Ce n'était pas un endroit qui m'attirait plus que ça. Je ne savais même pas qu'il y avait des apparitions de la Vierge Marie. J'entendais parler toutes ces histoires de Marie, de Jésus, de dialogue avec Dieu. Pour moi, c'était un autre monde. C'était une genre de folie commune. Parce que dans tout ça, moi, je ne voyais rien de concret. Je ne voyais que des paroles, des chapelets, des magasins, mais rien de concret. Et donc, il s'est passé pas mal de choses. Voilà, j'essayais quand même d'aller pendant les temps de prière. Je me suis dit, je vais quand même jouer le jeu parce que il faut que je reste avec tout le monde. Et puis, je veux voir comment ça se passe. Et puis, c'était assez marrant de voir beaucoup de drapeaux, de voir tout le monde joyeux. On est toujours content de rester dans des ambiances, des atmosphères joyeuses. Et il a commencé à se produire des sortes de coïncidences. J'appelais ça des coïncidences très étranges. J'étais convaincu que la foi n'était pas vraiment réelle. Je me posais certaines questions. Enfin, déjà personnellement, j'étais convaincu que la foi n'était pas réelle. Et je me souviens un matin, je m'étais posé des questions sur l'Église, sur la vie, sur les avortements, le mariage. J'en avais parlé à personne parce que j'étais dans ma chambre, je me posais ces questions-là en moi. Je me disais, ah, c'est vrai que l'Église, elle est vraiment loin de tout ça, hein, avec toutes ces décisions qui ont été prises il y a des centaines d'années. Il faudrait se mettre au goût du jour parce que aujourd'hui, on vit plus de cette manière-là. Et en marchant dans la rue ce même jour, quelques heures ou dizaines de minutes plus tard, une dame m'interpelle, une dame que je ne connais pas, qui vient me parler. Il faut savoir qu'à Medjugorje, c'est des personnes de tout horizon qui parlent plein de langues. Des Français, il y en a très peu. Et une dame vient me parler en français. Elle me demande, parlez-vous français? Je dis oui. Elle me dit, oh bonjour, c'est beau, n'est-ce pas, voir tous ces jeunes, comme le Seigneur est bon avec ses enfants. Et elle continue en disant, ah, la vie vraiment doit être protégée, c'est tellement important, et le mariage, c'est vraiment sacré, etc. Et elle continue à parler en me répondant à toutes les questions que je me posais quelques dizaines de minutes plus tôt dans ma chambre. Alors là, je me suis dit, waouh, c'est vraiment une coïncidence. J'avais l'impression que cette dame avait lu dans mes pensées du matin. Et puis elle est partie. Alors, aucune suite. Et moi, je me dis, mais la conversation qui n'a aucun intérêt, si ce n'est pour me montrer qu'il se passe quelque chose. Oh, je me suis dit, c'est quand même bizarre. Bon, je sentais que c'était une belle coïncidence. Et puis, un autre exemple, le pape, de la même manière. Je me dis, mais le pape, c'est un homme élu par, comme un président, en fait. Il n'y a aucun lien avec Saint-Pierre et le Vatican. C'est juste un gouvernement qui a du pouvoir et tout ça. Au moment de déjeuner, la personne assise en face de moi, elle me donne toutes les réponses à mes questions sur le pape, sur le Vatican. Elle me parle d'une telle manière que, à la fin du repas, en repensant à mes questions, Je me dis, mais en fait, je suis bête, je ne m'étais jamais posé les bonnes questions et je n'avais pas eu les bonnes réponses. Et je me dis, ah, effectivement, sur ça, l'Église a raison. Ah, effectivement, sur ça, le Vatican fait de son mieux. Ah, effectivement, la vie mérite d'être protégée. Et je me suis retrouvé comme ça un petit peu. Et des coïncidences comme ça, entre guillemets coïncidences, ont été plus nombreuses. Et au bout de 4-5 coïncidences, je commence à en parler avec ma cousine. Je lui dis, ma cousine Delphine, donc Delphine, regarde ce qui se passe pour moi, je sens qu'il y a des coïncidences, je pense à ça, ça arrive devant moi. Ma cousine me dit, évidemment, prie la Vierge Marie. Moi, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Alors, je connais les prières, le Je vous salue Marie, je peux prier, mais Je ne savais pas qu'il y avait un lien avec ça, mais je joue le jeu. Donc, j'avais pas peur de ressentir quelque chose. Donc, j'ai prié. À partir de là, j'ai commencé à avoir de plus en plus de coïncidences et je commençais à entendre des motions en moi, des motions intérieures qui me demandaient de faire certaines choses. Par exemple, de rester à un endroit qui était assez désert où j'allais croiser une sœur que j'avais vue auparavant et des choses qui se produisaient vraiment devant mes yeux et qui étaient complètement folle pour moi. Pour moi, il y avait un mystère derrière tout ça. C'était comme un grand pouvoir qui m'était donné de pouvoir voir des choses qui se passent devant moi, mais je ne comprenais pas ce que c'était. Et j'avais simplement, je commençais simplement à remarquer qu'il y avait des coïncidences assez bizarres. Et ma cousine m'a dit, bah, tu sais, ces émotions, c'est certainement la Vierge Marie qui parle en toi. Et je lui ai fait, waouh, c'est vraiment trop cool. Bah, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des efforts pour essayer d'entendre cette voix qui parle en moi, d'essayer d'entendre ces émotions et d'aller plus loin avec ces émotions-là. Alors, je veux dire que j'étais toujours dans mon optique d'attendre le soir pour aller faire la fête. J'étais toujours là. Mais je vivais la journée en essayant de la vivre à fond. Donc, je me sentais un peu comme un super-héros. J'étais là et je me disais, allez, que cette émotion, je veux entendre cette voix pour savoir ce qui va se passer devant. Et j'aimais tellement quand ça se passait, quand ça arrivait. Et puis, petit à petit, je voyais que le Seigneur, enfin, je ne le savais pas, mais le Seigneur travaillait mon cœur et il ouvrait mon cœur pour venir me parler de manière très belle, parce que mon cœur était trop dur, mon cœur était trop fermé et il n'était pas prêt à entendre, il n'était pas prêt à entendre ce que le Seigneur avait à me dire. Ce que je n'ai pas dit aussi, c'est qu'avant de venir à Medjugorje, j'étais vraiment dans des ténèbres. Je me rappelle un ami qui m'avait demandé, oui, mais Edouard, comment tu nous vois dans 10 ans? Moi, je lui avais dit, mais dans 10 ans, on sera mort parce qu'avec la quantité de drogue, d'alcool qu'on prend, et on voit nos vies vraiment, nos vies qui dégringolent. Je me voyais, je lui racontais, mais que j'étais comme dans un trou où je creusais pour essayer de trouver la sortie. Mais je creusais dans les ténèbres et je creusais, j'essayais de trouver la sortie en bas alors que la lumière était en haut, mais je ne voyais pas la lumière. Et au bout d'un moment, avoir creusé pendant des années, pendant 10 ans, eh ben on ne voit plus de lumière, on n'a plus la possibilité de sortir. Et il faut qu'une main soit tendue vers nous, il faut qu'une main du ciel vienne, de la lumière, qui vienne nous récupérer de notre trou et qui nous sorte de là. Et j'étais arrivé comme ça, Medjugorje. Et je sentais pas d'avenir pour moi. Pour moi, voilà, j'allais mourir bientôt et puis c'est tout. Et puis la vie, elle aurait été vécue comme ça. Et à Medjugorje, j'avais oublié cette image-là et j'étais plutôt dans un jeu de rechercher ces belles choses qui se passaient, ces choses qui se passaient dans mon cœur, dans ma tête et qui arrivaient devant moi. Ma cousine m'a proposé d'aller me confesser. Au départ, je n'avais pas envie d'y aller, mais le troisième jour, je me suis dit, par curiosité, je vais y aller. Et à partir de là, tout a changé. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé dans le confessionnal, mais tout ce dont je me souviens, c'est d'être ressorti. J'étais complètement nouveau, j'étais léger, j'étais libre, j'étais totalement libre, je volais littéralement. Et je me suis retrouvé donc des confessionnaux. Je ne sais pas si vous, ceux qui sont allés à Medjugorje savent, il y a toute une rangée de confessionnaux dans ce plus grand confessionnal du monde. Je suis sorti de ce confessionnal, j'ai fait tout un chemin, il devait y avoir quelques dizaines de mètres pour aller dans l'église en volant littéralement et en arrivant à l'intérieur de l'église devant la statue de la Vierge Marie. Je me suis retrouvé à genoux devant la statue de la Vierge Marie, complètement effondré en larmes, à regarder Marie. Je sentais une telle présence de la Vierge Marie devant moi que ça me faisait pleurer et j'avais honte en fait de m'être éloigné de la Vierge Marie. Je venais de confesser tous mes péchés et c'est comme si Dieu s'était révélé à moi. Vous savez, j'avais un peu l'image, c'est un peu l'image du Seigneur qui te dit viens au pied de ma croix et il faut que tu viennes au pied de ma croix si tu veux me rencontrer. Et un peu comme si tous mes péchés clouaient Jésus sur une croix et la confession, c'est un peu comme si ce cœur qui s'ouvrait, cette lance. C'est difficile d'aller se confesser quand on ne s'est pas confessé depuis longtemps, quand on a beaucoup de fierté, quand on n'a pas envie de parler de nous-mêmes, on n'a pas envie de regarder nos propres péchés. C'est difficile. C'est difficile comme une lance qui poignarde un cœur. Voilà. Mais le cœur de Jésus qui s'est ouvert, eh ben, il a jailli sur nous. Et il nous a purifiés par son cœur, par le sang et l'eau qui est venu sur nous. Et moi, je me sentais un peu comme purifié par cette eau et ce sang sur moi. Je me sentais complètement nouveau. Je me sentais libéré de mes péchés. Je me sentais hors de ce trou. Et je savais même pas que quelqu'un pouvait me relever tellement je me sentais bas. Devant moi, je voyais la Vierge Marie qui était là devant et qui me disait, j'entendais dans mon cœur cette parole que j'oublierai jamais. Elle me disait, maintenant, je suis avec toi. Prends-moi par la main et je ne te lâcherai jamais. J'étais à genoux en pleurs devant la Vierge Marie et je lui ai dit « Oui, oui, Vierge Marie, je te prends par la main et c'est terminé. Ma vie, à partir d'aujourd'hui, sera différente. » Ça fait 10 ans maintenant que j'ai décidé de prendre la Vierge Marie, la main de la Vierge Marie. Et il n'y a aucun jour où je me suis senti loin d'elle. Elle a toujours été là. Elle est toujours là depuis ce moment-là. Et c'était un moment vraiment... Je ne savais pas ce qui se passait à ce moment-là quand j'étais à genoux. Mais à un moment, j'ai repris mes esprits et je me suis dit, mince, je me sens en train de pleurer. Je sens qu'il y a plein de monde autour de moi qui prie devant la statue de la Vierge Marie. Et je me dis, bah, j'essuie mes larmes parce que je ne veux pas trop qu'on me voie. Et je me tourne et je vois à ma gauche, à ma droite, plein de gens qui sont en train de pleurer aussi devant la statue de la Vierge Marie. Je me dis, mais c'est trop beau. Tout le monde est en train de vivre la même chose que moi. Tout le monde est en train de recevoir les mêmes grâces que moi. Et tout le monde est en train de parler à notre maman du ciel qui est devant eux. Et j'ai trouvé ça tellement beau que... Quand je me suis levé, c'est comme un voile qui s'est enlevé. Mes yeux voyaient un peu en noir et blanc. Vous savez, comme, bah oui, on a un voile devant nous, on voit en noir et blanc. On met des lunettes de soleil, on verra, ou des lunettes, maintenant on dit les lunettes 3D, ou les lunettes comme ça. Enfin, les lunettes qui nous permettent de ne voir aucune couleur. Voilà, c'était ces lunettes-là que j'avais. Et je suis sorti, j'ai vu cette foule immense de personnes, la même qui était là avant que je rentre dans ce confessionnal. Mais je les voyais en couleur. Je voyais tous ces visages heureux d'être là pour le Seigneur et je voyais le monde en couleur. À partir de là, j'ai compris que j'étais dans un mensonge avant et que la vie mérite d'être vécue même pour moi et que la vie doit être vécue dans la vérité, non pas dans les ténèbres, non pas dans l'obscurité, non pas avec un voile devant nos yeux, le voile que le monde veut nous mettre pour nous éloigner de Dieu. Mais le Seigneur nous demande de nous éloigner, de retirer ce voile, de lui faire confiance et de l'appeler, lui, pour qu'il vienne retirer ce voile et pour qu'il nous fasse voir le monde réel comme il est, pour qu'il nous fasse voir les personnes qui vivent les pauvres, qu'on puisse avoir de la compassion pour les pauvres, qu'on puisse avoir de la compassion pour les personnes qui ne connaissent pas Dieu, qui s'éloignent de Dieu et qui sont attirées par tout ce que le monde propose, par les convoitises, par la richesse, l'argent. Mais le Seigneur nous demande d'être riche que par lui, que de lui. Et moi, je connaissais pas encore Jésus, mais j'ai connu la Vierge Marie. Je me suis dit, mais Vierge Marie, je resterai avec toi. J'ai changé complètement à ce moment-là. J'ai commencé alors je suis devenu un peu foufou. Ma cousine m'a pas reconnu. J'ai fait tous les magasins. Je voulais acheter tous les tableaux de la Vierge Marie, tous les chapelets. Je suis rentré avec des chapelets pour toute ma famille, des tableaux partout. Plus personne ne m'a reconnu. Mais pour moi, j'étais bien. Je me sentais dans une paix que j'avais jamais sentie. Et cette paix ne m'a pas quitté pendant plusieurs mois. Je suis rentré chez moi. Je sentais la présence de la Vierge Marie dans mon travail, dans le métro, dans ma maison, dans ma chambre. J'ai senti que vraiment la Vierge Marie m'a envoyé à Medjugorje pour montrer qu'elle était là et pour montrer que j'avais besoin d'elle dans ma vie. Et en rentrant, je l'ai prise. J'ai pris la Vierge Marie avec moi en rentrant. Et je lui ai donné la première place dans ma maison, la première place dans mon travail, la première place dans ma vie. Et tout a changé dans ma vie. J'ai reconstruit une vie sur des bases solides. Et depuis 10 ans, le Seigneur continue à construire dans ma vie, autour de cette base solide qui est le Christ, continue à construire de belles choses. Aujourd'hui, je suis très heureux de vivre avec une petite fraternité qui s'appelle Notre-Dame Mère de la Lumière à Caen, dans la région de Caen, et on vit les messages de Marie tous les jours. Tous les jours, on prie la Vierge Marie, on prie le rosaire, on essaie de vivre les 5 cailloux. Chacun a son rythme et on a cet amour pour la Vierge Marie qui nous permet aussi de voir les belles choses et de voir des miracles dans nos vies. Voilà, grâce à elle. Je voulais simplement ajouter que dans ma vie, vous l'avez fait, une petite parenthèse, c'est que la Vierge Marie aussi m'a guidé vers cette fraternité. Et vous savez, parfois on se demande où est-ce que le Seigneur me veut ou qu'est-ce que le Seigneur veut pour moi. Parfois, on se demande, mais ça prend trop de temps aussi dans les prières. On fait beaucoup de prières, on se dit, ça prend trop de temps, je veux que ça aille plus vite. Mais le Seigneur fait les choses en son temps et vraiment d'expérience et en entendant tous les témoignages des personnes avec qui on parle, des personnes qu'on rencontre, eh ben, on se rend compte que le temps du Seigneur, ce n'est pas le nôtre, c'est vraiment difficile d'être patient, mais le Seigneur a de belles choses pour chacun d'entre nous. Il ne met personne de côté, il n'oublie personne. Vous savez, moi j'ai attendu longtemps, pendant 10 ans, je me suis demandé quelle était ma vocation. Et il y a 4 mois, je me suis marié avec Emeline de la fraternité aussi, Notre-Dame Mère de la Lumière. Et on est tellement heureux de s'être rencontrés et de prier tous les jours, de construire sur quelque chose de solide, de construire sur le Seigneur notre vie, notre maison, notre foyer, notre future famille, qu'on ne regrette en rien toute cette attente. Voilà, et j'avais aussi une petite intention qui me venait dans le cœur pour tous les auditeurs de Radio Maria, pour toutes les personnes qui prient pendant longtemps. Sachez que ma maman a prié pendant plus de pendant. Alors au départ j'allais à l'église avec elle, mais j'ai commencé à m'éloigner de l'église, et pendant près de 17 ans elle a prié pour qu'on retourne tous les enfants à l'église, pour qu'on découvre le Seigneur. Et 17 ans plus tard, le Seigneur a vraiment tout changé dans notre vie de famille. Après mon retour de Medjugorje, la plupart de mes frères et sœurs sont allés à Medjugorje, ont été touchés et ont changé de vie et ont mis Dieu dans leur vie. Et on trouve ça tellement bon. On prie le chapelet, on arrive à prier le chapelet en famille alors que c'était inimaginable avant. Donc vraiment, les intentions que vous portez, même si vous les portez pendant longtemps, elles ne sont jamais, jamais mises de côté. Elles sont toutes entendues. Et vous, toutes les personnes qui prient pour une intention, surtout pour vos enfants, toutes les personnes qui prient beaucoup pour des intentions particulières, sachez que vous êtes les saints de nos jours. Vous êtes les personnes qui portent le monde aujourd'hui. On a besoin des prières, on a besoin de priants et de personnes qui prient. Et je remercie aussi Radio Maria pour cette belle œuvre, parce que dans le monde entier, on peut entendre Radio Maria, et toutes les personnes qui veulent prier en communion avec Radio Maria peuvent le faire. Voilà. Et je remercie le Seigneur pour m'avoir permis de témoigner et de vous partager tout ça. Ce soir. Voilà, j'espère que j'ai pas été trop long, Sandrine.
C'est parfait. Merci beaucoup. En plus, on est vraiment dans le timing. C'est vraiment extraordinaire. En tout cas, merci beaucoup. Vous avez une joie extraordinaire et ça nous fait du bien. Voilà, ça nous réveille dans nos petites fois et on se dit waouh, il va falloir qu'on change des choses pour évoluer un petit peu. Ça, avec la grâce de Dieu. Oh, merci en tout cas. Ça nous fait vraiment du bien. Je rends grâce à Dieu. Voilà, pour la Gospa, la Vierge Marie qui fait des merveilles. Voilà, merci d'avoir dit ce oui, merci d'y être allé et de vous être voilà, le Seigneur a transformé tout son amour, toute la délicatesse du Seigneur, de la Vierge Marie, pour que votre cœur s'ouvre et que voilà, ça y est, c'est l'heure. Ça germe, ça fleurit. Tout ce qui a été semé par votre mère dans les larmes peut-être, eh bien, germe, porte du fruit cette fois et en abondance. Merci Seigneur, quelle joie, quelle joie. En tout cas, un grand, grand merci pour votre témoignage. Merci pour votre vie aussi. Hein. Vous êtes au service dans cette fraternité et vous faites beaucoup de bien là-bas. Voilà, merci, merci, merci. Gloire à Dieu. On n'a que ça pour conclure. Merci en tout cas.
Merci à tous les auditeurs de Radio Maria de poursuivre ces 4 jours de Medj Connect. D'aller vraiment jusqu'au bout et de parce que je suis certain que la Vierge Marie désire des actions comme celle-ci. Elle a demandé elle-même à Medjugorje de construire Medjugorje dans nos maisons, dans nos familles, et en proposant cette initiative, Radio Maria permet justement à chacun d'entre nous de vivre, d'être un peu plus proche de la Vierge Marie pendant ces 4 jours. Donc j'invite vraiment tous les auditeurs à rester fidèles pendant ces 4 jours à ce beau programme que vous proposez.
Merci beaucoup, vraiment. Merci, 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 merci Edouard pour ce très beau témoignage. Mais merci pour toutes les paroles que vous avez offertes à nos auditeurs et moi la première. Merci beaucoup. Eh bien, on reste bien sûr en union prière et puis bah voilà, priez bien pour la radio. On sait qu'on est en union, en communion ensemble. Chacun sa mission, mais on y va ensemble vers la Vierge Marie avec elle. Avec sa main.
On se retrouvera tous là-haut.
Merci Edouard, merci beaucoup.
Il est tout béni.
Merci beaucoup, à très bientôt. Merci.
Bientôt.
Au revoir. Au revoir.